pensais aussi que mes attractions, mais ce dont tu parlais, tu sais, quand tu disais oui, je suis calme, je suis tranquille, et puis après, je suis attirée vers autre chose. Moi, je pensais au boulot, par exemple, au boulot, on a peut-être envie d'être dans l'être-té, et puis paf, il y a quelqu'un qui arrive, il va commencer à me poser des questions, alors on va focaliser, on va parler des émotions, et puis. Et puis, oublie de la confiance, oublie de tout. Et puis, je me disais, quand je verrai, c'est parce que je m'agrippe à ces choses-là. Je les saisis. Et si je les saisis,
c'est pas je m'agrippe, elles sont saisies.
Elles sont saisies. Oui. Mais elles sont saisies parce que moi, je me prends en jeu. Je me laisse aller dans ce jeu-là.
Il y a croyance que c'est vrai.
Il y a croyance que c'est vrai. Mais pourquoi il y a croyance que c'est vrai?
Ça apparaît.
Ça apparaît, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est que je veux participer.
Oui.
Ou alors je ne veux pas participer, mais en tout cas, je suis là. Et je pensais que...
Il y a l'idée d'un moi agissant.
Il y a l'idée de ce moi agissant. Et tant que je pensais qu'il y avait tant qu'il y aurait cette idée de moi agissant, il y aurait toujours aller-retour vers le moment où je veux faire attention à être dans la conscience, enfin, si on peut mettre ce grand mot, hein. Et le moment où je vais complètement zapper tout ça. Et je me disais, quand je verrai, au sens de moi, je ne suis rien, n'existe pas, j'aurai un peu plus de recul et je serai un petit peu plus en être. Mm-hmm. Et moi, dans les. Dans le balancement, dans le mouvement et en fait, dans l'absence, tout simplement, de conscience de ce qui est.
L'impression que j'ai, c'est que tu pars toujours du principe qu'il y a un moi,
oui,
qui va réaliser quelque chose.
Ouais, c'est toujours.
Or, il n'y a pas de moi.
Il y a.
Ce que je dis.
C'est une pensée, mais c'est extrêmement difficile de percevoir comme pensée parce qu'il faudrait que pour cela, je me rende compte quand je parle que je n'ai pas pensé ce que j'ai pensé.
Mais regarde.
Et c'est en fait. C'est quasiment pas mission impossible, mais pas loin.
Tu peux le regarder à certains moments. Et quand tu l'as regardé 2000 fois, c'est bon.
Oui.
S'il y a 2000 pensées que tu n'as pas, en 48 heures, que tu n'as pas pensé, tu peux commencer à faire une déduction.
Oui. Parce qu'il y a quand même la compréhension. Il y a des moments où on ne comprend pas, et il y a des moments où on comprend. Alors on se dit, c'est parce que.
Il y a des moments où il n'y a pas compréhension et d'autres moments où il y a impression de compréhension ou compréhension.
Ouais. Et là, on se dit, c'est le cerveau, c'est le mental, c'est la forme. Enfin, c'est qu'il y a le moi qui comprend ou qui ne comprend pas.
Mais non, c'est pas le moi.
C'est ce qu'on se dit. Même,
oui.
il y a croyance en une pensée de compréhension et croyance en une pensée d'incompréhension.
Oui.
Oui. Et en fait, pour enlever le moi aussi.
Oui.
Oui. Mais c'est pas gagné. Pour l'instant,
oui.
C'est pas gagné.
Mais je me répète, tu pars toujours
et puis,
de la perspective centrée sur l'idée d'un moi. Moi, Frédéric, incarné dans le monde aujourd'hui.
Ouais.
Et tu dis, quand j'aurai réalisé qu'il n'y a pas de moi... Donc, de moi, Frédéric, incarné dans le monde, déjà, tu auras disparu, il n'y aura plus personne, d'après ta théorie. Alors, je serai plus dans l'être. Donc, moi qui aurais disparu, je serai dans l'être. C'est une contradiction dans les termes.
Le moi, au sens de cette croyance en que moi existe.
Et alors, si moi n'existe pas, qu'est-ce qu'il y a?
Et absence de moi. Si moi n'existe pas, il y a
qui reste.
Il y a être.
Il y a être, de fait.
Il y a être, et puis tout ce qu'il y a aux alentours que je vois.
Qui apparaît.
Qui apparaît et qui vit.
Oui. Oui. Et si ça fonctionnait dans l'autre sens? Si d'abord il y avait être, et puis tout ce qui apparaît. Crispation. Et croyance en un moi, qui apparaît. Et décrispation ou relâchement arrête la croyance en un moi. Croyance en un moi, arrête la croyance en un moi. Croyance en un moi, arrête la croyance en un moi. Si ça fonctionnait dans l'autre sens,
ça serait plus logique déjà.
Ça serait plus logique. Il n'y aurait plus de contradiction dans les termes.
Donc il y aurait une pensée qui viendrait et une pensée qui repartirait.
Une pensée qui apparaît, qui est saisie, et une pensée qui n'est plus crue.
Qui ne fait qu'on ne voit plus qu'elle et une pensée qui ne fait pas.
Exact. Tu te focalises sur quelque chose, il n'y a plus que ça. Tu arrêtes de te focaliser. Oh, tout le monde est là, le monde entier apparaît. Enfin, tout le reste est réalisé, est vu, perçu.
Et l'attrait du jeu, je l'aurai toujours. Et j'aurai toujours ces émotions qui viendront perturber la conscience qu'il y a à l'être. Mais sans avoir forcément ce moi. J'aurai toujours l'ego, mais sans toujours amener tout à moi.
Donc il n'y aurait plus de perturbation.
Et ben pourquoi il n'y aurait plus de perturbation? Il y en aurait toujours. Il y aurait des fluctuations.
Changement.
Il n'y aurait peut-être pas ces culpabilités, ces atermoiements qui font vraiment mal, ça c'est sûr.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'il n'y a pas de données personnelles.
Oui. À partir du moment où la croyance en la pensée moi s'effondre, je vais tourner la phrase dans l'autre sens. La fin de la croyance en la pensée moi offre l'opportunité de la fin de toute souffrance. L'opportunité de la fin de toute souffrance. Pas la fin de toute souffrance parce que la totalité de l'ego ne s'effondre pas avec l'effondrement de la croyance en la pensée moi. Par contre, dès que la croyance en la pensée moi s'effondre, tous ces mécanismes égotiques, responsables de la souffrance, liés à des pensées crues, peuvent facilement être vus et s'effondrer à leur tour. C'est pas un préalable, c'est un facilitateur. Grand facilitateur. On peut déjà regarder certaines pensées, certains mécanismes et les voir s'effondrer. Et le travail qui est fait avant n'est pas perdu. Entre guillemets. L'habitude de penser depuis l'autre côté, tu vois. Oui. On t'a appris à penser moi, Frédéric, dans le monde.
Oui.
Regarde comment c'est en réalité, mais regarde-le, perçois-le. Vois l'apparition d'un moi. Il y a plein de moments dans la journée où l'idée d'un moi n'est pas présente.
Après, il y a le corps aussi, hein. C'est-à-dire qu'on peut se sentir bousculé.
Mais bien sûr, mais ça continuera.
Et quand on se sent bousculé, c'est à travers le corps qu'on le sent. On ressent tout à travers le corps. C'est pour ça qu'on a tendance à tout centrer vers soi.
Oui. Non, mais tu confonds moi, et enfin tu confonds ce que tu es avec le corps. Tu n'es pas le corps. Tu n'es pas réductible à un corps. Est-ce que tu es le corps ou est-ce que tu as un corps?
J'ai un corps.
Si on parle de mes amygdales, c'est plus toi-même, quoi.
Je ne peux pas sentir ce que Y ressent.
Mais tant que tu es focalisé sur l'idée de moi, petite Frédéric, comment pourrais-tu aller sentir ce qui se passe ailleurs? Si tu concentres ta pensée sur une tâche, tu n'entends même plus les sons alentours, pourtant le corps les entend.
Oui, ça c'est parce
mais tu n'en as plus conscience.
C'est parce que
tu es focalisé sur un point précis.
Focalisé sur moi.
Voilà.
Et c'est ce qui fait que je ne suis pas capable de voir ce qu'il y a autour et de.
Si tu es focalisé sur l'idée d'un moi et que tu solidifies ça par une tension corporelle, évidemment que c'est plus difficile de ressentir les autres et tout ce qu'il y a autour. Ce Cela dit, je suis bien certain qu'il était déjà arrivé de ressentir ce que ressentaient d'autres gens.
Au niveau émotionnel, pas au niveau physique.
Quand quelqu'un se coupe, ça fait pas mal, ça fait pas.
Ça, c'est des mémoires.
C'est des mémoires aussi, oui.
C'est des mémoires.
Mais pas seulement.
Non, pas seulement. Pas seulement.
Pas seulement. Regarde de près, regarde d'autres choses. Je sais que quand je travaillais en gynéco-obstétrique, je poussais avec les femmes. Il y avait plein de choses qu'on sent comme ça, qu'on sait qui sont en nous.
C'est la compassion.
C'est l'être, c'est ce qui est. Il n'y a pas de séparation.
Mais c'est rigolo parce que même quand vous faites le geste, la pensée là qui arrive, il y a toujours ce truc-là.
Voilà, c'est pour dire ça se coach, ça se colle,
ouais.
Mais oui.
Ouais.
Mais c'est un geste, c'est qu'un geste.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Et surtout, regarde aussi la pensée moi, de nombreuses fois tous les jours, n'est pas perçue. Il y a plein de moments dans la vie où la pensée moi n'apparaît pas. Il y a des moments où c'est évident, quand tu es scotché par la beauté d'un paysage, il n'y a pas l'idée d'un moi qui dira c'est moi qui regarde la beauté du paysage. Si cette pensée-là apparaissait, le paysage serait plus vu, tu vois, enfin, il ne serait plus vraiment perçu pour ce qu'il est.
Quand je parle, j'ai l'impression que moi je parle.
T'as l'impression que moi je parle? Et quand tu te tais, t'as l'impression que c'est toi qui te tais?
Ça dépend des fois. Il y a des fois où c'est naturel et des fois où je m'oblige à me taire et là oui je me tais. Mais en fait c'est cette image que j'ai, ce cadre, oui c'est vraiment un cadre. C'est une image.
C'est il y a l'idée d'un moi qui vient s'imposer.
Mais c'est parce qu'en fait on enlève des idées. Quand on enlève un moi, on donne de la liberté. Parce que si on n'est pas le moi qui doit se taire,
mais s'il y a une situation qui réclame que tu te taises, qui est l'idée d'un moi ou pas, tu vas te taire, quoi.
Oui. Mais on va toujours... S'enfermer dans un... Enfin, on se met dans un cadre.
Oui. Il y a l'idée que c'est moi qui le fais. Ou c'est moi qui le fais pas. Mais c'est juste une idée.
Ouais, c'est une idée. Que l'idée d'être dans un cadre, c'est une idée.
Regarde tous tes moments heureux. Et dis-moi s'il y avait l'idée d'un moi dedans.
Non.
Heureux et paisible.
Non, c'est pas, il n'y a pas de moi dedans.
Il n'y a pas de moi.
Parce que moi
il
n'y
a pas l'idée d'un moi. Donc qu'est-ce que serait ce moi qui apparaîtrait et disparaîtrait systématiquement dans les moments heureux et paisibles?
C'est une limite. C'est un...
Mais quelle est sa réalité?
Ben, elle disparaît, donc... On n'en a pas besoin, en fait.
Dès que c'est heureux et paisible, il n'y a plus l'idée d'un moi.
Oui.
De quoi est fait ce moi qui prétend être? Enfin... Parce qu'il ne prétend pas être, hein. Qu'est-ce qui permet d'affirmer il y a un moi? Puisque dans plein de moments, en fait, il n'y en a pas.
Oui, parce qu'on s'en fout.
Dans plein de moments, on voit qu'il n'y en a pas.
On va y arriver, hein. Dans la voiture, dans la vaisselle. Ça, c'est vrai. C'est vraiment les pensées qui sont associées tout le temps à ça.
Oui.
À cette production. Parce que, aussi, quand on est enfant, on fait culpabiliser sur ce qu'on dit. Tu as dit ça.
Mm-hmm. Tu as fait ça, il ne fallait pas le faire, etc. Oui.
Voilà.
Ça, c'est la manière dont ça se construit.
Ouais.
Ouais. D'accord.
Donc, on a ceci.
Mais, comme répondent toujours les enfants, je ne l'ai pas fait exprès. C'est pas moi, même quand c'est évident que c'est eux.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'ils savent naturellement qu'il n'y en a pas. tellement vrai. C'est pas eux, c'est pas eux qui l'ont fait. Ça s'est fait. Puis si les parents eux-mêmes, la croyance en la moi, ils vont insister. Fais attention. Mais j'ai fait attention. Alors fais encore plus attention. T'as pas fait assez attention. Tu vois, on va insister. Tu es responsable. Et ça, ça fait croire à l'idée d'un moi. C'est, il faut que je fasse attention. Ça devient un je qui n'est plus une facilité qu'en langagière, simplement, qui devient une idée d'un individu qui doit choisir, qui doit faire ce qu'il faut,
mais
comme il faut.
Sans le vivre même à l'état d'adulte. Hein.
Pardon ?
Sans le vivre même à l'état d'adulte. Hein.
Ben, mais ça se construit dans l'enfance. Ça se construit dans l'enfance.
On le vit tout le temps.
Tous ceux qui sont pris par l'idée d'un moi, bien sûr, vont tenir ce langage. Donc il y a un consensus.
Ouais.
On baigne là-dedans, donc forcément. Quand il y a un asticot qui vient dire « il n'y a pas de moi », on a envie de le brûler vif.
Oui. Moi, si on dit « j'ai pas fait ça alors qu'on a fait ça », je me dis « voilà, vous avez foutu ma gueule, hein ».
Par exemple, oui.
Ça, c'est vrai.
Ouais, il faut bien avoir l'intelligence de le dire autrement. Ouais. Mais même dit autrement, ça c'est fait. Que les gens ne prennent pas la responsabilité de leurs actes, ça c'est criminel.
Oui.
Toi, pour beaucoup de gens, puis alors tout est permis, alors on peut faire n'importe quoi, alors tu comprends.
Je pense à ça.
Ça n'a rien, ça n'a pas de sens, c'est pas vrai.
Oui, mais c'est quelque chose que je. Enfin.
Mais quand tu bloques un enfant qui va traverser la rue, qui va se faire écraser, est-ce qu'il y a un moi ? Est-ce qu'il y a besoin d'un sens de la responsabilité ? Et d'où culpabilité ? Ça se fait.
J'ai pas cette croyance très forte dans la responsabilité de ses actes. Hein. Ça, c'est...
Ah ben oui, ça s'appelle une croyance. Mais s'il n'y a pas de moi, qui peut être responsable ?
C'est. La vie. C'est la vie qui est responsable, mais. Après, on peut dire que le discours des gens correspond à ce qu'ils pensent avoir fait. Et que.
Mais c'est lié à leur conditionnement.
C'est lié à leur conditionnement, donc ils vont penser que c'est eux qui ont fait. Et ils vont juste.
C'est pas eux, c'est leur conditionnement. Ils n'ont qu'un pouvoir sur leur conditionnement. Même si tu crois en un moi.
Et c'est leur conditionnement, mais c'est leur conditionnement, c'est quoi ? C'est aussi le jeu de la vie, alors ? C'est quoi ?
Évidemment.
Voilà, mais donc.
En fonction de leurs expériences, de leur éducation, de qu'est-ce qu'ils ont vécu.
Mais ils vont croire.
Ils n'ont aucun choix là-dessus.
Mais on croit aux responsabilités aussi parce qu'on les justifie. On justifie nos actes. On n'est pas.
Mais ça aussi, c'est un conditionnement et c'est une pensée. Penser qu'on est responsable de nos actes et qu'on doit aller justifier, ou que je sais pas quoi, c'est. C'est une histoire.
Qu'est-ce qu'il faut penser de quand on a l'impression d'avoir des énergies du Christ ou de l'archange Michael ou enfin, des choses comme ça ?
C'est une expérience.
C'est l'imaginaire ou qu'est-ce que
c'est ? C'est une expérience.
Mais une expérience qui vient d'où, de quoi c'est...
Mais comme tout le reste, ça apparaît.
C'est comme de vivre le mal de ventre du voisin ou des choses comme ça.
Le mal de ventre
du voisin. Enfin, ça m'arrive on parlait tout à l'heure des ressentis d'émotions ou physiques. Moi, par exemple,
tu es en contact avec quelque chose que tu étiquettes, l'énergie du Christ et des choses comme ça. Et je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je serais malvenu pour dire le contraire. Pour dire que c'est pas vrai, je veux dire, mais c'est une expérience. Qui montre qu'il n'y a pas de séparation.
Tais-toi. Ce qui n'a rien à voir avec l'imaginaire, donc. Parce que, je veux dire, bon, moi ça m'arrivait souvent avec le Christ, mais... Si j'étais née en
si
Inde,
si tu appelles une image,
le Christ, je ne saurais pas qui c'est.
C'est pas une image, ça a une réalité existentielle, sans aucun doute. Ouais. Enfin, pour moi en tout cas, oui. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. mais comme de ressentir ce que ressentent d'autres personnes. Tu fais bien de prendre cet exemple-là. Ça a une réalité existentielle, évidemment. Évidemment. Bon, après, il y en a plein qui jouent avec tout ça, pour d'autres raisons, etc. Hein, je ne parle pas de ça, mais évidemment, évidemment que ça existe, ouais. Et c'est une expérience, ça veut dire qu'il n'y a pas à en faire autre chose que ce que c'est. Il n'y a pas à dire, à croire que je suis plus évolué ou qu'un tel est plus évolué parce qu'il fait l'expérience de ci ou ça. Ça, c'est faux.
Non, justement, j'ai bien compris avec la conversation qu'on venait d'avoir que, justement, comme il n'y a pas ce moi cristallisé sur lui-même, ben, on peut s'étendre à l'infini. Enfin, s'étendre, non, c'est
Tu rejoins ce que tu es, petit à petit, tu rejoins cet espace que tu es.
Oui.
Oui. On pourrait dire ça comme ça.
Donc, je l'ai compris justement à travers cette conversation.
Mais c'est ça ce que disait le Christ, le Père vit en moi et je vis dans le Père. Moi et le Père sommes un, c'est la même chose, dit différemment. Il n'y a pas de séparation, c'est en.
Ça m'aide beaucoup cette compréhension parce que comme j'ai déjà un moi assez poreux, si je peux dire, ça m'aide à comprendre.
C'est pas le moi qui est poreux dans ce que tu dis, c'est l'identification, la cristallisation de l'identification sur le corps. Si les gens croient fortement qu'ils sont le corps, évidemment, ils ne vont pas sentir ce que les autres sentent, puisqu'ils sont cristallisés là-dessus. Tu vois, c'est comme s'ils regardaient juste un tout petit point là. Et forcément, ils ne vont pas voir le reste. Et chez toi, ce qui se passe, c'est que l'identification au corps est labile. Tu ne doutes pas qu'il y a ce corps et que tu es ce corps d'une certaine manière, mais tu n'es pas limité au corps. Donc forcément, tu vas sentir plein d'autres choses. Et c'est aussi parce que tu sens toutes ces autres choses que tu sais que tu n'es pas limité au corps. Ce que font naturellement les enfants, d'une façon générale, d'ailleurs.
Dans le fond, oui. Par contre, je reste encore bloqué au niveau de mon histoire, mon identité, etc.
Ben, parce que tu as tiqué de ça, bon. C'est pas le moi qui est pour eux, c'est l'identification.
Oui, oui, oui. Oui. Pourtant, j'ai toujours eu. Je me souviens, je faisais une psychothérapie il y a une quinzaine d'années. Et je racontais tout le malheur en pleurant comme une bonne. Et malgré tout, malgré que j'étais fort dans toutes ces histoires, il y avait quelque chose qui me disait, comme si j'inventais tout ça.
Bien sûr.
C'était très bizarre comme impression.
Oui, c'est
ça. D'une certaine manière, c'était la vérité vraie, c'était ma vérité.
Oui, mais c'est ta vérité.
C'était tout inventé.
Et bien voilà, dit. Et c'est une apparition. Oui, tout à fait. Sauf que dans cette thérapie, on t'a incité à parler de cette vérité, de ta vérité, et de la croire vraie et de l'éplucher et tout, au lieu de porter l'accent sur. Est-ce que t'as pas un peu l'impression que c'est un jeu tout ça?
Oui, c'est dommage.
Et là, tout d'un coup, pouf.
C'est dommage qu'on m'a pas dit ça à l'époque parce que de moi-même, je prenais parfois du recul vis-à-vis de ma propre histoire.
Ça, c'est toujours pareil, c'est l'état de conscience du thérapeute. Hein. Si lui croit fort aux histoires personnelles, je ne le critique pas parce que je ne critiquerai personne, j'y ai trop cru moi aussi. Forcément, il va regarder l'histoire personnelle. Et s'il ne croit pas à l'histoire personnelle, s'il sait que c'est juste une histoire construite de toutes pièces et qui est crue, il ne va pas y accorder grande importance.
parfois l'impression que c'est tellement ténu de basculement, c'est d'autres plus dommage, pas dommage, non, c'est comme ça, mais...
C'est une impression. T'es pas obligé de croire que c'est la vérité, c'est une histoire. Quelque part, il n'y a plus que c'est juste une histoire.
Oui, c'est vrai.
Elle a failli me piéger. Hein.
Putain.
Je sais bien, je dis ça rigolo. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure Frédéric à propos de comment serait un monde où on n'est pas responsable, c'est l'histoire d'un voleur qui est arrêté, qui est amené devant son juge, et qui explique au juge, mais monsieur le juge, j'y suis pour rien, moi Dieu m'a fait voleur, je n'ai aucun pouvoir là-dessus, je ne suis pas responsable. Vous ne pouvez pas me condamner. C'est comparable, hein.
Bah, le juge répond, moi Dieu m'a fait juge,
et voilà.
Je suis tombé une sanction.
Voilà. Ben voilà, t'as tout compris. Il n'y a pas besoin d'une responsabilité personnelle pour que les rôles soient joués.
Ouais.
Ah, t'as pas besoin de te sentir responsable de ton enfant pour lui donner le sein.
Ouais.
Ça se fait naturellement.
Ça désempare et ça... C'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'il faut ressentir. Mais c'est vrai que c'est. Faut être au bon tirage, quoi. Au niveau du loto, c'est. Vaut mieux avoir la carte, pas de prison, pas de guerre, pas d'amputation, pas de trucs comme ça, quoi.
Mais tant qu'il y a identification à l'organisme corps mental, il vaut mieux. Quand il n'y a plus d'identification à l'organisme corps mental, ça n'a plus d'importance.
Puis si on imagine un monde d'éveillés, où il n'y aurait plus que des éveillés, je suppose qu'il n'y aurait pas de guerre, pas... parce qu'il n'y a personne qui s'attacherait à rien, il n'y aurait pas de, justement, de responsabilité, de culpabilité.
Il n'y aurait sûrement plus de volonté de pouvoir, des choses comme ça, il y a des chances qu'il y ait des choses qui tourneraient. Ouais.
Ce serait le paradis, non?
Je sais pas, on verra. Je sais pas. On sait pas, tout ça, j'en sais rien. Tout dépend du niveau d'évolution. Je sais pas. En fait, je sais pas. Mais on peut imaginer qu'il y a quand même une évolution qui se produit au niveau existentiel. C'est illusoire. C'est une illusion, bien sûr. Il y a apparemment une évolution qui se produit. Et l'apparition d'un moi, apparemment, fait aussi partie de cette évolution. Et la disparition du moi fait aussi partie de cette évolution. Alors dans ce cadre-là, on ne peut pas dire qu'il ne faudrait pas qu'il n'y ait jamais eu de moi. Parce que probablement que ce serait l'anarchie, ou tu vois, enfin... Puis nos petits anges, nos charmants petites têtes blondes, ne sont pas toujours si charmantes que ça, tu vois. Il y a aussi des stades au niveau psychologique, analytique, à passer. Aujourd'hui, on est coincé dans une société et on est au stade anal. Faut pas se leurrer, c'est-à-dire que c'est gouverné par le pouvoir. Le pouvoir, l'argent et le cul, ça, pour bien dire que c'est anal. On est gouverné par ça aujourd'hui, en résumé. C'est en caricature un peu. Et donc on est une société bloquée au stade anal, psychanalytiquement parlant. Et dans une société de ce type, probablement que les notions de culpabilité et de responsabilité sont très nécessaires. Ça met un peu un frein, espérons-le, à certaines choses, à certains débordements. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est sûr que avec l'évolution psychologique, en termes psychanalytiques, à un moment donné, tout ça s'effondre parce que ça n'a pas de sens, tout simplement. Mais déjà au stade suivant, au stade génital psychanalytique, on est avec l'autre, on n'est pas sans ou contre lui comme au stade anal, au stade manipulatoire. Donc déjà là tout change. Et la psychanalyse n'a jamais parlé de la communion, où là on vit l'autre en soi. Et là, évidemment, qu'est-ce que tu vas aller faire du mal à quelqu'un d'autre? Ça n'a absolument aucun sens. C'est en toi que tu vas éprouver la douleur que tu lui fais. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Ça, tout ça, c'est que le niveau existentiel, en réalité. Il n'est pas du tout certain qu'il faille passer par les étapes les unes après les autres pour arriver un jour à voir qu'il n'y a pas de moi. Je crois pas ça, en tout cas. Mais je ne sais pas si... quelqu'un qui est franchement dans le pouvoir aujourd'hui, si tout d'un coup il réalise qu'il n'y a pas de moi, j'imagine pas qu'il puisse vraiment rester dans des relations. Enfin, il peut rester dans des relations de pouvoir parce que c'est son rôle, mais il ne peut plus s'y identifier, pas très longtemps à mon avis. J'imagine pas, enfin, je ne vois pas ça, quoi.
C'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir n'ont pas beaucoup de conscience de. Pas la conscience de beaucoup de choses. Hein, de...
Les gens qui sont pris par le pouvoir, c'est en dépit d'eux-mêmes, et le plus souvent, ce sont des gens qui sont bloqués à un stade d'évolution en termes psychanalytiques, tout simplement. Tout simplement. Et ça ne veut pas dire que tous ceux qui. Ont des postes de pouvoir sont bloqués là-dedans. Ça ne veut pas du tout dire ça, c'est pas la même chose. Et il y a des gens de pouvoir qui ont peu de pouvoir, mais qui l'exercent à mauvais escient. C'est le même blocage.
L'évolution de la conscience va avec, on va parler en termes d'évolution, va avec l'ouverture du cœur ou c'est deux choses différentes?
Au niveau existentiel, c'est toujours pareil. Tu me parles au niveau existentiel. Au niveau existentiel, l'ouverture du cœur, ça veut dire quoi? C'est une expérience.
C'est pas l'expérience déterminante qui ne permet pas le retour en arrière.
Il y a des expériences déterminantes qui ne permettent pas de retour en arrière. Définitivement en arrière. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses du passé qui ne se manifesteront pas de temps en temps. Mais de toute façon, ce sont des expériences.
Quand on a un lentement dans le cœur, on n'est pas éveillé. On a juste la montée dans le cœur.
Quand on a ?
La montée dans le cœur.
La montée dans le cœur ?
Ce qu'on appelle la montée dans le cœur. On n'est pas éveillé.
C'est quoi la montée dans le cœur ?
C'est ce que je mets derrière. Mais une ouverture du cœur et l'absence du moi.
Mais ça, tu constates l'absence de moi et l'ouverture du cœur quand tu es avec ton chéri, quand tu regardes un paysage qui te scotche par sa beauté, quand tu fais des expériences mystiques, etc.
C'est quelque chose qui je sais pas, moi, au niveau énergétique, je pensais qu'il y avait quelque chose. C'était passage, ajustement des souffles, c'est des croyances, ajustement des souffles au niveau du cœur, ascendant et descendant, un équilibre qui se crée et puis une ouverture du cœur qui fait que on a passé une étape.
Oui, c'est dans le yoga. Dans le yoga, il y a des états intermédiaires comme ça dans lesquels il y a concentration au niveau du cœur et à ce moment-là, il y a expansion. Mais ça, c'est intermédiaire, c'est artificiel.
Non, c'est une expérience.
C'est ce qu'on appelle la Kundalini.
Ah, vous avez fait une Kundalini, des choses comme ça. Oh, ça, c'est des expériences, c'est existentiel.
En fait, c'est sur quoi on peut se baser sur l'existentiel pour savoir.
Rien.
pour se rendre compte qu'on arrive un peu plus.
C'est dans l'autre sens.
Sur quoi? Alors, qu'est-ce que l'être va faire pour qu'on se rende compte que.
Qu'est-ce que
l'être, qu'est-ce qui va me tomber dessus pour que je m'en rende compte que j'ai avancé ou que je n'ai pas avancé? Non, mais là, il a dit de mettre dans le sens inverse. Maintenant, plutôt que de faire partir de moi, je fais partir de l'être.
Mais l'être ni n'avance ni ne recule.
Il est.
C'est hors temps, hors espace-temps, donc.
Moi, je me fie au silence, alors. Et puis, comment je sais où j'en suis? Ouais. Bon, on va arrêter là, parce que...
Tu as l'impression d'aller d'un point A à un point B. Il y a des étapes à franchir.
Il n'y a pas d'étapes à franchir.
Tu es déjà ce que tu cherches. Tu es déjà. Tu ne peux pas ne pas être.
Oui.
Il ne s'agit pas d'aller d'un point A à un point B
en
passant par je ne sais pas quels endroits, mais de réaliser que tu es déjà ce que tu cherches.
On l'a vu ensemble hier. Là, j'ai oublié. Là, c'est Apex Mental.
Tu ne peux pas ne pas être ce que tu es. Karl Renz dit souvent, sois ce que tu ne peux pas ne pas être.
C'est qui dit ça?
Karl Renz.
Ah oui.
Sois ce que tu ne peux pas être.
Sois ce que tu ne peux pas ne pas être.
Ah.
Le mental, il y a un côté là du mal à suivre. Si tu veux, sont
des pensées qui montent et qui descendent.
Voilà.
Il faut prendre ou ne pas. Enfin, il faut voir quand on y croit, quand on s'accroche à elle. Mais je vais apprendre.
T'as bien avancé, hein. On a piégé un peu.
Donc, le petit moi qui veut évoluer, qui mange.
C'est une histoire.
Végétarien, qui médite, tout ça.
C'est une histoire.
C'est mieux de manger végétarien que de manger de la viande. Pour le corps, c'est mieux quand même.
Pour certains corps, il paraît. Oui. Je ne sais pas, dans l'absolu, j'en sais rien du tout.